prêtes et portions des blousons de cuir. La nuit, dans les dortoirs, nous discutions du néocolonialisme, de Frantz Fanon, d'ethnocentrisme européen et de patriarcat. Donc imaginez la terreur d'un militant conservateur américain au moment où cette crise économique intervient, impose à l'État d'être beaucoup plus actif, au moment où siège à la Maison-Blanche un homme qui a ce passé. Et je crois que ça, c'est une contrainte de fond, une contrainte très importante qui oblige toujours Obama à manœuvrer avec soin, à essayer de prendre des distances par rapport à son passé de militant afro-américain. Et malheureusement, quand il veut, enfin malheureusement ou heureusement, peu importe ce qu'on en pense, quand il veut tendre la main à la droite pour essayer de rassurer en quelque sorte le pays, il se heurte systématiquement à une fin de non-recevoir. Et je rappelle donc dans l'article que toutes les mesures qu'il a décidées, le plan de relance, la réforme financière ou le plan de réforme de la santé, il n'a presque à chaque fois pas trouvé un seul suffrage républicain pour le soutenir. Or, au Sénat, quand vous avez 40 sénateurs qui s'opposent à une mesure, ils peuvent faire durer la discussion indéfiniment. Il y a donc en fait une tyrannie de la minorité. Or, la minorité, elle est républicaine au Sénat, il dispose de 40 sièges, qui peut conduire à paralyser toutes les réformes d'Obama. Or, Obama, au même moment, est quelqu'un qui ne cherche pas à ressusciter la mobilisation populaire qui l'a conduit au pouvoir.
Il pourquoi cherche non
en quelque sorte...
Pourquoi ? Parce qu'elle existe. Le reportage sur Détroit, dont nos amis vont parler, montre qu'il y a une mobilisation populaire. On a fait l'an passé, pour ce qui nous concerne, là-bas, si je suis des reportages un peu analogues à Cleveland, Ohio, il y a un soutien populaire formidable pour Obama.
Parce que je crois qu'il se dit qu'étant, en quelque sorte, élu président des États-Unis, disposant d'une majorité au Congrès, il doit arriver à ses fins. Et par ailleurs, il veut en quelque sorte rompre avec l'image qu'une partie des Américains a de lui, qui est celle du militant noir radical. Et donc, pour rompre avec cette image, il prend en quelque sorte une posture très institutionnelle, très centriste. Il s'exprime toujours dans la forme, c'est très frappant quand on entend ses discours, qui est « mes amis républicains pensent ceci, mes amis progressistes pensent cela, et moi je choisis la voie médiane ». C'est toujours en quelque sorte la raison froide, cérébrale, centriste, le consensus, la part du feu entre les deux extrêmes, entre guillemets.
Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le déclin relatif des États-Unis ?
Le lien avec le déclin des États-Unis, c'est évidemment que Barack Obama a le souhait de rétablir la puissance économique américaine et qu'il sait que pour rétablir la puissance économique américaine, il faut introduire de profondes réformes de structure et qu'il doit imaginer que ces réformes de structure sont inenvisageables s'il n'a pas le soutien des milieux d'affaires. Et c'est pour ça que, en permanence, depuis qu'il est élu, il a ménagé Wall Street et il a même nommé à la direction du ministère des Finances un homme de Wall Street. Donc, quand vous devez, en quelque sorte, obtenir en permanence le consentement des milieux d'affaires, ne pas trop mécontenter les républicains, éviter de rallumer la paranoïa de la droite active, eh bien, vous êtes condamné à cette posture un peu difficile qui explique, à mon sens, la première année d'Obama au pouvoir.
On continue avec le diplôme de ce mois de janvier. On va continuer avec les États-Unis, avec un reportage à Détroit, Alain Poplar et Paul Vanier. La ville qui rétrécit. Détroit, la ville qui rétrécit. On se souvient de ce qu'est cette ville de Détroit dans le Michigan. C'est, qui dit Détroit dit automobile. Or, ça, c'est fini.
C'est pas vraiment fini dans la mesure où elle continue d'être l'une des capitales de l'automobile dans le monde et continue d'abriter au tout le moins l'agglomération, les sièges sociaux de General Motors, de Ford ou de Chrysler. Donc ça continue d'être l'un des hauts lieux de l'automobile dans le monde. Maintenant, si on considère non pas l'agglomération mais la ville en elle-même, effectivement, beaucoup d'emplois se sont déplacés soit dans le sud des États-Unis, soit dans les banlieues et ont déserté la ville-centre de Détroit.
Vous brossez un paysage assez désolé et désolant.
Oui, puisque la ville de Détroit a perdu...
C'est qui parle là, c'est Paul ?
C'est Paul, oui.
La ville de Détroit a perdu plus d'un million d'habitants ces 50 dernières années, et ce phénomène de dépeuplement se poursuit ces derniers mois, sous l'effet conjugué à la fois la crise de subprime, qui a entraîné la saisie de plus de 67 000 habitations ces trois dernières années, et sous l'effet de la crise économique, qui a entraîné une considérable augmentation du taux de chômage. Alors les gens s'en vont d'abord dans les banlieues, et